Chapitre 20. Le capitaine Lennart. Le capitaine Lennart vint un jour du mois d'août à l'auberge de Brobeuf. Il se rendait à sa terre de Helgesøter, qui se trouve à quart de mille au nord-ouest de Brobeuf, tout près du bois. Le capitaine Lennart ignorait encore qu'il serait un instrument de la volonté divine. Son cœur débordait de joie. Il avait traversé de sombres jours, et après avoir injustement souffert, il retournait chez lui. La cuisine était déserte. Il s'amusa à regarder autour de lui et ne put se tenir de toucher à tout. Il embrouilla le fil du rouet, il prit le chat et le laissa tomber sur la tête du chien, et rit aux larmes quand l'ahurissement de ses deux camarades, les empêchant de se reconnaître, les fit tendre leurs griffes et hérisser leurs poils. L'hôtelière entra, attirée par le vacarme. Un instant, elle demeura immobile sur le seuil. Elle reconnaissait l'homme. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était sur la charrette des criminels, des menottes au poignet. Quelle douloureuse histoire! Il y avait 5 ans et demi, pendant la foire d'hiver, des malfaiteurs avaient volé les bijoux de la femme du gouverneur à Karlstadt. Des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles, d'autant plus précieux aux yeux de la noble dame qu'elle les avait hérités ou reçus en souvenir. On ne les retrouva jamais. Mais bientôt un bruit se répandit dans la contrée qui désignait le capitaine Lennart comme l'auteur de ces vols. L'hôtelière ne s'en était point expliqué l'origine. Personne ne savait qui l'avait propagé. C'était un brave homme, ce capitaine Lennart. Il vivait heureux avec sa femme, que ses médiocres ressources ne lui avaient permis d'épouser que sur le tard. Son petit domaine et ses appointements suffisaient à leur vie. Quel mobile l'eût poussé à commettre cette mauvaise action? Il avait répondu à l'accusation qu'en effet, il était allé à la foire, mais qu'il en était revenu de bonne heure. Sur la route, il avait trouvé une vieille boucle cabossée, l'avait ramassée et donnée à ses enfants en guise de jouet. Seulement, il paraît que cette boucle d'or faisait partie des objets volés. Cela fut une preuve accablante contre lui. On prétendait aussi que Saint-Ram, qui quelques années plus tard fut accusé d'avoir vendu de la poudre norvégienne pendant la guerre de 1814, aurait eu peut-être dans le capitaine Lennart un témoin à charge si le capitaine Lennart n'avait été sous les verrous. L'hôtelière ne pouvait se rassasier de contempler cet homme. Il avait les cheveux gris et le dos courbé. On voyait que la vie lui avait été dure, mais il semblait garder encore son humeur enjouée et son bon visage aimable. Malgré ses malheurs, il était resté ce même capitaine Lennart, cet ami qui, le jour de son mariage, l'avait conduite à l'hôtel et avait dansé avec elle. Sans doute il s'arrêterait encore comme autrefois à causer avec chaque personne qu'il rencontrerait sur sa route. Comme autrefois, il jetterait des sous aux enfants. Comme autrefois, il dirait à chaque vieille femme ridée qu'elle devenait tous les jours plus jeune. Peut-être même le reverrait-on debout sur un tonneau, le violon sous le menton, jouer des airs à la veillée de la Saint-Jean. « Eh bien, mère Catherine, commença-t-il, on ne me dit rien ?» L'hôtelière comprit qu'il était entré pour avoir des nouvelles de chez lui. Elle lui en donna, et de bonnes. Sa femme s'était montrée aussi capable qu'un homme. Elle avait affermé le petit domaine du nouveau propriétaire. Et tout lui avait réussi. Ses enfants se portaient à merveille. C'était un plaisir de les voir. Sûrement, on l'attendait. Certes, la capitaine était une dame sévère qui ne confiait point ses pensées. Mais l'hôtelière savait pourtant que personne n'avait eu la permission de manger avec la cuillère du capitaine, ni de s'asseoir sur sa chaise pendant son absence. Et tout ce printemps, aucun jour ne s'était passé que la capitaine ne fût montée jusqu'à la grande pierre, tout en haut de la pente de Brobeuf, et n'eût interrogé la route. C'était à ces choses-là qu'on pouvait voir qu'il était attendu, bien que la capitaine n'en dît jamais rien. « On ne le croit pas, n'est-ce pas ? » fit le capitaine Lennart. « Oh non, capitaine, répondit la paysanne. Personne ici ne le croit. » Alors le capitaine Lennart quitta l'auberge. Mais le hasard voulut qu'il rencontra à la porte de vieux amis. Les cavaliers d'Egbeu arrivaient, invités par le méchant Saint-Ram pour y fêter son anniversaire. Ils s'empressèrent de secouer la main du capitaine et de lui souhaiter la bienvenue, et ils le forcèrent à rentrer avec eux et à vider une coupe. Malheureusement, le capitaine, qui depuis 5 ans n'avait pas trempé ses lèvres dans l'alcool et qui n'avait rien mangé de la journée durant sa longue marche, eut la tête vite tournée. Les cavaliers l'obligèrent de leur faire raison avec tant de générosité que le pauvre capitaine, l'homme le plus sobre du monde, s'endormit sur un banc. À le voir étendu et sommeillant, Josta ne put repousser l'absurde tentation de lui peindre le visage. Il prit un morceau de charbon et un peu de jus d'érelle, et lui noircit autour des yeux, lui dessina une cicatrice rouge à travers le nez, ramena ses cheveux sur son front en mèche touffue et lui ombra toute la figure. Les cavaliers s'en amusèrent, puis Josta voulut le laver. « Non, laisse-le donc ! dit Saint-Trame, il rira bien quand il se réveillera. On le laissa, et bientôt les cavaliers l'oublièrent. La fête se prolongea toute la nuit, et l'aube commençait à poindre quand ils songèrent à regagner leur manoir. Mais qu'allait-on faire du capitaine endormi? Nous allons le ramener chez lui, dit le méchant Saint-Trame, comme sa femme sera heureuse de le revoir. Cette idée transporta les cavaliers et mouilla leurs yeux d'une douce émotion. Oh oui, qu'elle serait heureuse, la sévère maîtresse de Helge Sutter. Ils secouèrent le capitaine Lennart, le hissèrent dans une des voitures que les valets somnolents avaient attelées, et ils partirent vers le domaine de Helge Sutter. Quelques-uns, à demi sommeillants, menaçaient de tomber à chaque soubresaut des véhicules, d'autres chantaient pour se tenir éveillés. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, ils se sentirent très solennels. Baron Kreutz et le patron Julius donnaient le bras au capitaine que la vue de sa demeure commençait à dégriser. « Ami, leur dit-il, j'ai souvent demandé à Dieu pourquoi il avait permis que tant de malheurs me frappât. C'était pour me faire jouir un tel moment de félicité. Ami, ma femme m'attend. Que sont 5 ans de misère auprès de cette joie du retour. » Lorsqu'ils atteignirent la porte d'entrée, ils la heurtèrent à grands coups de poing. La maison s'emplit de remue-ménage. Les servantes s'éveillaient, épouvantées, et regardaient par les fenêtres. Elles s'habillèrent à la hâte, mais n'osèrent point ouvrir à cette bande d'hommes ivres et tumultueux. Enfin, on entendit un bruit de verrou, et la capitaine apparut. « Que voulez-vous » demanda-t-elle. « Nous t'amenons ton mari, » dit Baron Kreutz. Et ils poussèrent en avant cet homme horriblement grimé qui, les jambes encore mal assurées, s'en allait trébucher contre elle. Derrière lui, la bande écarquillait des yeux que l'ivresse rendait farouche. « Tu es parti d'ici comme si tu avais été un voleur, » s'écria-t-elle, « et tu en reviens comme une canaille. » Et elle le repoussa violemment. « Crois-tu donc, » reprit-elle, « que je t'accepterai pour maître de ma maison et de mes enfants ?» Puis elle referma la porte avec éclat et tira le verrou. Le capitaine Lennart se jeta sur cette porte fermée et l'ébranlait des pieds et des poings, et les cavaliers riaient. Quand il les entendit rire, il fonça sur leur groupe, aveuglé de douleur et de rage. Ils se sauvèrent et remontèrent précipitamment dans leur voiture. En courant après eux, il buta contre une pierre et tomba. Il se remit sur ses jambes, mais il ne les poursuivit plus. Lorsque le soleil se leva, le capitaine, du haut de Brebeuf, contemplait la vallée. Ses regards ne découvraient que des champs dévastés par la sécheresse, et, dans les montagnes bleues, de brumes étendues, où des forêts avaient été incendiées, noircissées sous la lumière du matin. Les bouleaux qui bordaient les routes avaient perdu presque toutes leurs feuilles. Et par bien des signes, surtout par l'odeur d'orge et de pommes de terre fermentées qui s'échappaient des fermes, il comprit que la misère était là et que les gens cherchaient l'oubli dans l'indifférence et l'eau-de-vie. Le capitaine, persuadé que rien n'arrivait ici-bas sans la volonté divine, se demanda quels pouvaient être les desseins de Dieu sur un pauvre homme comme lui. Ses 5 années de misère et la cruauté de sa femme lui semblaient aussi incompréhensibles que les voies les plus mystérieuses de la Providence. « Que veux-tu de moi, mon Dieu ? » pensa-t-il. « Où veux-tu me mener? Pourquoi m'as-tu fermé les portes de ma maison ?» Et regardant tous ces villages désolés de ces sécheresses et menacés de famine, « Te faut-il un misérable » ajouta-t-il, « pour soulager tant de misère ?» Cette idée s'empara de lui. Il ne tenta pas de se rapprocher de sa femme avant qu'elle le rappelât. Mais elle ne le rappela pas. Dans le pays, on l'en blâma fortement. D'ailleurs, elle ne voyait presque personne, et ceux qui voulurent lui parler de son mari furent vite interrompus. Je crois cependant que le capitaine Lennart fut tout de même rentré chez lui et s'y fut montré avec son vrai visage, si les événements n'avaient pris à tâche de l'en détourner et ne l'avaient, en quelque sorte, investi d'un extraordinaire pouvoir sur les pauvres de la contrée. La misère du pays était grande. Un jour, le capitaine Lennart vint parmi les malheureux paysans qui demeurent au pied de Gurlitta. Ils avaient achevé leur réserve de pommes de terre et n'avaient pas assez de blé pour ensemencer leur arpent défriché. Le capitaine prit alors une petite barque, se rendit au manoir le plus proche, chez Saint-Trame, et le pria de leur donner des pommes de terre et du seigle. Saint-Trame lui fit un excellent accueil. Il le mena dans ses granges bien fournies et dans ses caves où s'amoncelaient encore les pommes de terre de l'an passé. Et le capitaine y remplit tous les sacs qu'il avait apportés. Mais Saint-Trame lui objecta que sa barque était trop petite pour une telle charge. Le lendemain, lui dit-il, un de ses bateaux lui conduirait ses provisions, et son valet, le rudement, les lui livrerait. Le capitaine Lennart s'en alla content. Il songeait à ces grains de blé qu'on sèmerait immédiatement dans la terre noire des brûlis. L'automne et l'hiver passeraient sur leurs jeunes pousses vertes. Mais elles résisteraient, et des tiges dresseraient à l'air leur épi pointu. Les plumes et les pistils trembleraient au souffle des brises, La poudre des étamines monterait en fumée légère jusqu'à la cime des arbres, et de belles javelles tomberaient au tranchant des faucilles, et le moulin ferait de la bonne farine nourricière avec ses grains de blé multipliés que le bateau de Saint-Trame apporterait. Le lendemain, le rudement abordait au débarcadère des gens du Gurnitin. Hommes et femmes accoururent. Alors le valet dit, comme Saint-Trame le lui avait ordonné, « Le maître de forge vous envoie du blé et des pommes de terre, de quoi faire de l'eau de vie, car il a appris que vous en manquiez. » À ces mots, les gens prirent une sorte de folie, se ruèrent sur le bateau et s'arrachèrent les sacs. Le capitaine, qui voulait les distribuer également, leur cria de les laisser. Nul ne l'écouta. « Que le seigle se change en sable dans votre bouche et les pommes de terre en pierre !» s'écria-t-il furieux et désespéré. Il n'avait pas prononcé ces paroles qu'un miracle sembla s'accomplir. Deux femmes qui se disputaient un sac le déchirèrent et du sable en ruissela. Des sacs de pommes de terre éventrés, les cailloux sortirent. Muette d'épouvante, la foule s'écarta et le capitaine resta un moment stupéfait. Seul le rudement se mit à rire. « Retourne vite chez toi, homme, lui dit le capitaine, avant que les pauvres gens aient compris que Saint-Trame a voulu les tromper. » Ce fut en vain que le capitaine expliqua au peuple que Saint-Trame l'avait indignement joué. On refusa de croire à autre chose qu'à un miracle. Tout le pays en parla, et le capitaine Lénart en retira, malgré lui, une réputation merveilleuse. On l'appela partout l'homme de Dieu.